Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bienvenue à tous pour ce nouveau carnet de région. Aujourd'hui, au programme. Tout d'abord, les agriculteurs cévenols en colère après les modifications des conditions d'attribution des subventions européennes. Ensuite, en Lozère, avec l'historique hôpital psychiatrique François Tosquel de Saint-Alban, qui se retrouve dans une situation financière délicate. À l'ordre du jour, fermeture d'une crèche et non-renouvellement de poste. Viendra ensuite un petit sujet culture d'RCF Pays d'Aude, avec la culture pour les tout-petits, c'est possible en milieu rural. C'est ce que vous propose de nous faire découvrir RCF Pays d'Aude à travers la manifestation Scène d'enfance qui débutera la semaine prochaine. Nous passerons ensuite à un sujet qui aura pour thème le printemps des comédiens. Enfin, on terminera ce carnet de région avec la création d'un nouvel office de tourisme communautaire sur l'agglomération d'Alès, un sujet de Radio Grille Ouverte.
Carnet de région, l'actualité en langue de Roussillon.
Débutons tout de suite avec un premier sujet de Rémi Goujon pour Radio Escapade. Les agriculteurs cévenols ne sont pas contents. Les négociations en cours à Bruxelles pour la politique agricole commune 2015 pourraient bien remettre en cause une partie des subventions qui leur étaient jusqu'alors attribuées. Dans cette région dont les paysages sont façonnés par l'agropastoralisme et qui a d'ailleurs été nommée à ce titre au patrimoine mondial de l'UNESCO, la pilule a du mal à passer. Du coup, à une semaine des derniers arbitrages bruxellois, les agriculteurs ont mené une opération escargot entre Ganges et le Vigan pour sensibiliser les habitants à ce sujet et aussi mettre la pression sur les élus. Rémi Goujon pour Radio Escapade a téléphoné à Bernard Grelier, présent au rassemblement de mercredi dernier, en tant que membre de la Fédération des groupements pastoraux Gard Lozère.
Le budget de l'agriculture, c'est le plus gros budget européen. Les grandes cultures, les céréaliers, etc., trustent 80% des aides ou à peu près, et que le peu qui est alloué aux éleveurs risque d'être terriblement rogné dans notre secteur, parce que tout ce qui est pâturage en forêt, tout ce qui est pâturage en châtaignier, sous chêne, n'est pas reconnu comme aliment pour les brebis et les chèvres. Alors que c'est reconnu en Corse pour l'alimentation des cochons, et que nous ici, nous avons essentiellement des parcours boisés, qui assure l'alimentation des troupeaux au moins 4, quand c'est pas 5 mois par an. Comme les contrôles et les attributions se font à partir de photos de satellites, du haut d'un satellite, on voit pas qu'il y a des châtaignes et on voit pas qu'il y a des glands. On voit vaguement qu'il y a des forêts, alors on dit, sous les forêts, c'est pas du pâturage. Donc nous, on a démontré qu'on pouvait très bien faire vivre des troupeaux là, et que si on y fait vivre des troupeaux, on y fait vivre aussi des gens. Et c'est ça qui est important. Et c'est notre activité qui est reconnue par le classement UNESCO, etc., etc. On n'invente rien, on continue à faire ce qu'on a toujours fait. Et ce qui était reconnu jusqu'à l'an dernier ne l'est plus cette année. Il y a de quoi être un peu amer. Ça va représenter, pour certains, plus de 50% des aides qui va disparaître. Donc c'est quand même assez énorme, et ça concerne au bas mot 300 ou 400 élevages, ça concerne l'envie de s'installer des jeunes. Ça va beaucoup plus loin que la simple revendication d'aujourd'hui. C'est pouvoir maintenir une activité, donc un tissu social, etc. Ça nous paraît vraiment quelque chose d'extrêmement important.
Voilà pour ce sujet de Rémi Goujon pour Radio Escapade. Partons maintenant en Lozère avec Ludovic Terrol de 48 FM. Déficit du budget, baisse des dotations, non-renouvellement de postes. Les salariés de l'hôpital psychiatrique François Tosquel de Saint-Alban-sur-Limagnole et des antennes de bande et de Florac sont en colère.
Et c'est ce qu'a dû ressentir Anne Marron-Simonet, la directrice départementale de l'ARS, après avoir reçu les personnels de l'hôpital ce mardi matin. Une entrevue après un rassemblement appelé par la CGT et Force ouvrière. Une entrevue plutôt tendue car avec un budget en déficit de 280 000 euros l'an dernier et une réduction de ce budget de l'ordre d'un million d'euros sur 5 ans. Ce sont 23 équivalents temps plein qui sont pour l'instant sur la sellette et la crèche au sein de l'hôpital dont la fermeture est déjà actée. Le problème, d'après Christelle Brunel, qui travaille au sein de l'hôpital, est que les conditions de travail sont déjà extrêmement difficiles. Alors quid de ces conditions après ces suppressions de postes ?
Les unités n'arrivent plus à tourner, on est rappelé sans arrêt sur des repos et on ne voit pas la situation viable à long terme. Ils veulent supprimer, pour l'instant ils nous annoncent 23 postes, maintenant on se demande si ça ne va pas monter jusqu'à 40 parce qu'il y a 42 contractuels. L'ambiance de travail est très difficile puisque nous sommes en milieu psychiatrique, nous sommes agressés régulièrement par des patients, ce qui est leur pathologie, bon ça après. Mais justement si on nous baisse le nombre d'effectifs, on ne peut plus vivre normalement et sainement au niveau du travail.
Pour Gilles Reversin, infirmier sur l'hôpital de Saint-Alban, avec ses suppressions, l'hôpital ne pourra plus tourner.
En ne renouvelant pas les contrats à durée déterminée. Donc ça, ils ont cette marge de manœuvre pour aussi économiser de l'argent. C'est-à-dire que ces gens-là, qui ne sont pas titulaires, on peut du jour au lendemain supprimer leur poste. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, si vous supprimez ces postes-là, l'hôpital ne tourne plus. L'hôpital ne peut plus tourner. Au niveau du personnel, c'est impossible. C'est 23 équivalents temps plein. Donc ça, ce sera pour les ASH, c'est-à-dire les agents de service hospitalier qui s'occupent du ménage, les aides-soignants, les infirmiers, les ergos, les psychologues. Donc tout ça, c'est une dégradation des conditions de travail, bien entendu. Ça joue sur la qualité des soins. Donc clairement, on a une baisse de la qualité des soins, obligatoirement. Qui va s'occuper des patients de l'hôpital ? Qui ? Je demande, voilà.
Et la baisse du budget d'un million d'euros sur 5 ans a été décidée afin de rééquilibrer les aides par rapport aux autres établissements de santé de la région qui seraient moins bien lotis que Saint-Alban. L'objectif étant de limiter les hospitalisations à temps complet et d'aller vers de l'ambulatoire. Anne Marron-Simonet, directrice départementale de l'ARS.
C'est une évolution des prises en charge qui n'a peut-être pas été, suivie par une évolution des dotations. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'hospitalise plus à temps complet. L'avenir, c'est l'ambulatoire. Et l'ambulatoire, ça veut dire déjà répondre aux besoins des patients et éviter les hospitalisations à la Camille Claudel, quoi. C'est-à-dire des gens qui se retrouvent pendant des dizaines d'années en établissement psychiatrique alors qu'ils ont un projet de vie. Je ne dis pas que ça se faisait à Saint-Alban, bien entendu. L'idée, c'est de rééquilibrer les dotations entre établissements. Et ça s'est fait à la demande de l'ensemble de la filière psychiatrique. On est face à une réalité concrète qui est la capacité de la nation à financer ses dépenses de soins. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas inquiète parce que je pense que Saint-Alban peut répondre aux enjeux et aux challenges qui sont les siens.
Et c'est là que le personnel n'est pas d'accord. D'après Stéphane Combe, infirmier à Saint-Alban, on ne soigne pas un patient en une semaine.
On a des patients qui arrivent dans un état plus ou moins mal, qui sont là depuis des années pour certains, pour d'autres qui font que des allers-retours, pour d'autres qui arrivent de structures médico-sociales en crise ou sur des séjours de rupture, qui sont mal physiquement, mentalement. Et on nous demande en gros de les remettre sur pied en une semaine, 10 jours, et qu'ils ressortent, qu'ils retournent. Ce que ferait pour certaines maladies un simple médicament, sauf qu'en psychiatrie, avec la personne, on travaille sur beaucoup plus long. À 80%, c'est de la personne qu'on donne. C'est du soignant qui donne de lui-même pour les patients. C'est comme si vous dites médecin, mais vous allez faire une opération, mais on vous enlève la moitié du matériel. Il va le faire comment ? Eh bien, il va essayer de bidouiller.
Enfin, d'après les personnels présents hier, la politique actuelle va engorger les urgences. Les hôpitaux psychiatriques ne pourront plus recevoir tous les patients, ce qui ne devrait pas aider les services d'urgence déjà surchargés.
C'était un sujet de l'extraordinaire, du magnifique, du spectaculaire Ludovic Thérol de 48 FM.
Carnet de région. L'actualité en langue de Croussillon.
Retrouvons maintenant un reportage d'RCF Pays d'Aude. Scène d'enfance, enfance face à la scène. 15 lieux et 134 représentations sur tout le territoire audois, parce que la culture ne doit pas être réservée à ceux qui habitent près d'un théâtre ou d'une salle de spectacle. Ainsi, Scène d'enfance pousse la porte des médiathèques et des bibliothèques qui s'ouvrent aux arts vivants.
À partir de mardi prochain, 17 mars, dans notre département de l'Aude, ce sont les enfants qui seront les grands privilégiés pour les spectacles vivants. Scène d'enfance démarre donc le mardi 17 et va courir jusqu'au 29 mars. Théâtre, marionnettes, contes, danse, musique et cirque pour les enfants d'abord. On en parle avec Dominique Massado, directeur de la scène nationale Théâtre de Narbonne, qui répond depuis longtemps à cette organisation portée par le Conseil Général de l'Aude.
Scène d'enfance est une manifestation qui, à l'initiative du Conseil Général, permet de favoriser la création et la diffusion des spectacles en direction du jeune public. Chaque année au mois de mars, donc là on rentre en plein dans cette période. Il y a tout un réseau dynamique de structures aussi qui autour de la scène nationale et avec la scène nationale sur l'ensemble du département participent à cet événement. Pour ce qui nous concerne en direct, nous c'est 3 spectacles, c'est 14 représentations sur temps scolaire et 7 représentations pour le tout public autour de 3 spectacles principalement dans le cadre de cette manifestation. C'est une ambition qui est ancienne et volontariste, puisque dès l'ouverture de la scène nationale, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, l'axe de travail en direction du jeune public est un axe qu'on a toujours privilégié. Donc on a une forte programmation en direction du jeune public au cours de chaque saison, qui tourne autour d'une dizaine de spectacles. Et parmi l'ensemble de cette programmation, effectivement, il y a au moment du mois de mars, un peu la mise en exergue de cette manifestation au niveau départemental. Après, chacun des forces un peu qui constituent le Scène d'enfance, chacun est libre aussi, responsable de sa programmation.
Scène d'enfance 2015 dans le département de l'Aude et par le département de l'Aude, c'est le croisement de 13 scènes qui s'ouvrent à 36 spectacles et les grands privilégiés, ce sont bien entendu les enfants. On prend des informations sur audealaculture.fr. Coup de chapeau à ce festival qui propose tous ces spectacles, jamais à plus de 5 euros.
C'était un sujet de Nathalie Dessauce pour RCF Pays d'Aude. Place à une interview de RCF Héros. Le printemps des comédiens aura-t-il bien lieu cette année ? La grève des intermittents a marqué l'édition 2014, un festival quasi inexistant. Cette année, faute de subventions, beaucoup d'événements culturels sont annulés dans l'Hérault. Pour Jean Varela, il n'y a pas que son festival qui est menacé, mais tout type de culture.
Je pense qu'il y a un mouvement national de reflux des budgets qui est la conséquence de la baisse des dotations de l'État aux collectivités territoriales qui financent, je crois, à 75% la création et la culture dans le pays. Il ne faut pas non plus s'affoler de cette situation, il faut être vigilant parce que nos établissements représentent des lieux d'éducation populaire, des lieux de rencontre, des lieux d'éveil, des lieux d'exigence artistique que nous faisons partager depuis très longtemps au plus grand nombre. Nous faisons un travail de rencontre, un travail qui vise, comme l'a dit Antoine Vitez, à faire partager l'élite artistique au plus grand nombre. À partir du moment où nous, techniciens, passeurs, nous leur donnons les clés esthétiques, historiques, des artistes et des créateurs. La baisse budgétaire, notamment de la subvention du département, qui est la même pour tous les services du département, m'a amené à faire des choix. Et plutôt que de réduire drastiquement le budget artistique du département, j'ai préféré réduire la durée. Et nous avons une chance inouïe au domaine d'eau, c'est que le département met à notre disposition plusieurs lieux de théâtre équipés, et notamment le dernier en date, le théâtre Jean-Claude Carrière, de 600 places, qui nous permet d'alterner les spectacles. On peut jouer en même temps au théâtre Paul Piot, 200 places, à l'amphithéâtre d'eau, 1800 places, au théâtre Jean-Claude Carrière, 600 places, au Mico Coulier, un théâtre de plein air de 500 places, et c'est dans ces lieux déjà équipés que j'ai pu construire l'enchaînement des spectacle.
C'était Jean Varela, directeur du Printemps des comédiens, au micro de Chloé Malinowski pour RCF Héros. A noter que le 29e Printemps des comédiens aura lieu comme chaque année au domaine d'eau, du 10 au 28 juin à Montpellier. Terminons ce carnet de région avec un reportage de Radio Grille Ouverte. Depuis la diffusion de la communauté de communes du Grand Alès avec 4 autres collectivités intercommunales, les élus d'Alès Agglomération ont décidé de faire du tourisme un axe majeur du développement économique de ce territoire. Désormais composé de 50 communes pour une population de plus de 100 000 habitants, le territoire d'Alès Agglomération est composé de paysages diversifiés, villes et villages, plaines, garrigues et cévennes. Ainsi, les quatre offices de tourisme de ce territoire, Alès, Anduze, Vézenobre et Saint-Jean-du-Gard, sont désormais réunis au sein d'une structure unique, l'Office de tourisme Alès Agglomération. Une structure associative dont le fonctionnement s'appuie bien évidemment sur le personnel existant et les élus, mais également sur les professionnels du tourisme par l'entremise d'un directoire dont le président, Daniel Lelièvre, détaille le fonctionnement.
Il s'agit tout simplement de regrouper quatre offices de tourisme qui existaient déjà et qui existent pour certains depuis très longtemps, en l'occurrence donc Anduze, Alès, Saint-Jean-du-Gard et Vézenobre. Ici on est en association et donc ce sont les socioprofessionnels principalement donc qui vont utiliser l'office de tourisme pour défendre leurs intérêts, entre guillemets, du moins promouvoir le tourisme à part entière, avec toutefois un contrôle des élus, parce que quand même c'est l'agglomération d'Alès qui finance en grande partie, à hauteur de plus de 600 000 euros de budget, qui va financer donc l'association. Donc il faut quand même qu'il y ait un contrôle. Ce contrôle, il est réalisé au travers de ce qui s'appelle le COS, Comité d'Orientation Stratégique, qui va donner au directoire que je préside des directives à déployer, donc à exécuter, puisque finalement on est l'exécutif de l'association.
En tant que président, vous êtes vous-même l'un de ces socioprofessionnels.
Moi, je suis un socioprofessionnel du tourisme. Je suis président de la grotte de la Salamande, qui est à l'extérieur du territoire. Il ne s'agissait pas de faire entrer quelqu'un du territoire qui aurait pu être considéré comme partisan. On aurait pu suspecter des conflits d'intérêts. Donc là, ce n'est pas du tout le cas. Moi, j'œuvre ici parce que j'essaie de développer le tourisme au sens général. À partir du moment où on attire des touristes à Alès, pour moi, ce sont des touristes qui vont facilement venir chez moi à la grotte de la Salamandre, et inversement, les gens qui sont à la grotte de Salamandre, la grotte de la Salamandre sont autant de touristes potentiels pour tous les sites du territoire. Donc voilà, il n'y a pas de frontières, et ça vaut pour l'Ardèche, ça vaut pour Nîmes. Aujourd'hui, on n'est plus dans un tourisme où les gens se plantent, entre guillemets, pendant trois semaines en un lieu sans bouger et en se faisant dorer chaque jour d'un côté. On est dans un mode de consommation de vacances où on se déplace, on fait des choses. Donc on cherche des activités, on cherche des lieux de visite, beaucoup plus qu'auparavant.
En regroupant et diversifiant l'offre touristique par la création d'une structure unique, le territoire d'Alès Agglomération veut gagner en compétitivité et favoriser son développement économique. Mais n'y aurait-il pas risque d'une perte d'identité ? La réponse de Daniel Lelièvre.
On a créé sur le territoire depuis 2012 plus de 1000 emplois dans le tourisme et les commerces reliés au tourisme. C'est de très loin le secteur d'activité dans lequel on crée le plus d'emplois sur la période. Donc, et ça va continuer. Plus on va développer d'activités, c'est des activités qui emploient beaucoup de monde, que ce soit l'hôtellerie ou les sites touristiques, les activités touristiques. On a besoin de pas mal de personnel. Alors du personnel saisonnier, mais aussi pas mal de personnel à plein temps.
Il y a quelques années, l'écrivain, aujourd'hui disparu, Jean-Pierre Chabrol, craignait que les Cévennes ne deviennent le bronze-cul de l'Europe.
J'ai connu le territoire dans les années 70 par le biais de la spéléologie. Je venais faire de la spéléo depuis Paris sur le territoire. Je me souviens qu'un certain nombre d'autochtones, nuitamment, allaient taguer les caravanes de Hollandais à la bombe de peinture, etc. Alors, les temps ont bien changé. Aujourd'hui, on est dans une structure d'accueil et je pense que je peux témoigner du fait que, même si moi je suis un déraciné, je peux témoigner du fait que ceux qui sont les habitants du cru, les autochtones, accueillent les touristes avec beaucoup plus de bonheur qu'auparavant. On a compris qu'il s'agissait non pas d'un tourisme de masse, mais d'un tourisme souvent un tourisme très vert, où on va pratiquer des activités, où on va justement utiliser la nature, la valoriser et non pas la dévaloriser. Sur ce plan, on est vraiment très très différent de ce qui se pratiquait justement dans les années 80-90.
À long terme, l'Office de tourisme Alès Agglomération devrait proposer de nouvelles filières touristiques et finaliser des projets en cours, tels le musée Maison Rouge à Saint-Jean-du-Gard ou l'extension de l'offre de cure dans la station thermale des Fumades. C'était un sujet envoyé par Yves Defago de Radio Grille Ouverte pour le carnet de région. C'était le carnet de région présenté cette semaine par Nathalie de Radio Margeride. Rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux sujets, en remerciant toutes les radios qui ont participé à ce magazine.
Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.